Ce document a été élaboré par la commission de dialogue international entre l'Église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale. Il nous a été demandé aux membres de cette commission de préparer un tel document pour préparer les esprits et les cœurs à cette commémoration de 2017. Car il est clair qu'un tel événement doit être expliqué. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas du tout de célébrer la division des Églises. Il faut comprendre qu'il s'agit plutôt de se réjouir ensemble de ce qui a été donné aux uns et aux autres et de ce que nous échangeons les uns avec les autres. Et par ailleurs, il s'agit aussi de reconnaître les fautes que nous avons pu commises dans le passé, les uns contre les autres, entre catholiques et luthériens.
La commémoration de cette réforme veut permettre une relecture commune de cette histoire, une histoire tumultueuse, marquée par la douleur, la guerre, la violence. Une relecture apaisée de cette histoire est-elle possible, selon vous, aujourd'hui ?
Il est possible, aujourd'hui, de relire cette histoire ensemble. En tout cas, c'est ce que nous avons fait, du moins pour les premières décennies, à partir de l'année 1517. L'une des grandes originalités, je pense, de ce document du confié à la communion, c'est que dans son chapitre 3, il propose une lecture commune, faite à la fois par les catholiques et les luthériens de la commission, une relecture commune de ce qui s'est passé aux origines de la réforme. Et cela est désormais possible, d'une part grâce aux travaux historiques qui ont permis de renouveler la compréhension de ce qui s'est passé au XVIe siècle, et d'autre part, c'est un fruit du dialogue œcuménique récent.
Le but de cette commémoration, c'est de réaffirmer ce qui nous unit, les points communs entre les deux églises. Très brièvement, quels sont-ils ?
Il y a un certain nombre de points communs qui sont apparus progressivement à la faveur du dialogue œcuménique, surtout depuis une cinquantaine d'années. Il y a eu bien sûr un rapprochement des positions à propos de la question du rapport entre l'Écriture sainte et la tradition. D'autres textes de la Commission internationale de dialogue entre luthériens et catholiques ont permis de clarifier aussi la question de l'Eucharistie. On se rend compte par exemple qu'il y a maintenant une compréhension commune de ce qu'on appelle en langage catholique la présence réelle, même s'il reste encore des différences sur certains points. Et sans doute, le point le plus important sur lequel il y a eu un accord entre catholiques et luthériens, c'est la question de la justification par la foi, puisque cette question a fait l'objet d'un accord qui a été solennellement signé, ratifié à Augsbourg le 31 octobre 1999. Naturellement, il reste aussi des points de désaccord, en particulier autour de la question des ministères, ou plus largement autour de la compréhension de l'Église. Mais de tels progrès ont été déjà accomplis par le dialogue œcuménique entre catholiques et luthériens depuis 50 ans qu'on peut raisonnablement espérer que de nouveaux pas seront encore franchis à l'avenir.
Le choix de la Suède peut sembler surprenant. La réforme est née en Allemagne. La Suède, qui a quand même une histoire douloureuse avec les catholiques dans le cadre de cette réforme, qu'attendre selon vous de la venue du pape et de cette commémoration commune à l'aune de cette histoire très, très douloureuse ?
Alors, je pense d'abord que si cette commémoration se passe dans un autre pays que l'Allemagne, c'est probablement une manière de signifier que ce n'est pas simplement justement l'Allemagne qui est en cause, bien au-delà, hein, puisque les églises issues de la réforme luthérienne sont présentes dans de nombreux pays, en particulier sont très présentes en Suède. Alors je pense que la venue du pape est un geste très très fort du point de vue symbolique. Le pape Benoît XVI s'était rendu à Erfurt, c'était un geste symbolique très important, Erfurt, là où Luther avait vécu. Le pape, en venant en Suède, au fond, ne vient pas simplement rencontrer le Luther de l'histoire ou les luthériens en Allemagne, mais il vient rencontrer plus largement des églises qui se réclament de la réforme luthérienne. Et donc c'est un geste de grande portée, je pense, de grande portée symbolique. On peut espérer que ce soit comme tel un jalon significatif dans les relations entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, et plus largement peut-être entre l'Église catholique et le protestantisme.